s'est entretenu avec M. Ouattara et l'a félicité pour sa réélection à la présidence de son pays. Cette élection était une étape importante pour le retour de la Côte d'Ivoire à la paix et vers la réconciliation des Ivoiriens, lit-on dans le communiqué. M. Ouattara, 73 ans, a été réélu dès le premier tour de l'élection du 25 octobre avec un score écrasant, frôlant les 84% de voix face à une opposition morcelée. L'ouverture du procès pour crime contre l'humanité de Laurent Gbagbo et de son ex-chef de milice Charles Blé Goudé a été reportée au 28 janvier afin que les juges aient le temps d'examiner des rapports sur la santé de l'ex-président ivoirien, a annoncé mercredi la Cour pénale internationale. Le procès devait initialement s'ouvrir le 10 novembre. Des audiences seront organisées du 10 au 12 novembre, lors desquelles les trois experts ayant procédé à des examens médicaux de M. Gbagbo comparaîtront. Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien mercredi à la décision de l'Union africaine de lancer une enquête sur la violation des droits de l'homme au Burundi et s'est dit prêt à agir. Le Conseil, dans une déclaration unanime de ses 15 membres, se déclare vivement préoccupé par l'insécurité croissante et la montée constante de la violence au Burundi depuis la réélection très controversée en juillet du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat, considéré comme inconstitutionnel par ses opposants. Les violences qui secouent le pays ont déjà fait quelque 200 morts et 200 000 personnes ont fui le pays. Au Congo-Brazzaville, l'opposition au président Denis Sassou Nguesso appelle à une marche patriotique et pacifique vendredi dans tout le pays pour contester les résultats du référendum du dimanche sur un projet de constitution permettant au chef de l'État congolais de se représenter en 2016, a annoncé mercredi un de ses porte-paroles. Les deux principales coalitions ayant fait campagne contre le référendum constitutionnel de dimanche, où le oui l'a emporté à 92,26% d'après le gouvernement de Brazzaville, veulent par ces manifestations dénoncer, et je cite, « la tricherie érigée en système de gouvernement » selon une déclaration commune lue à la presse par un porte-parole. Les autorités congolaises ont suspendu sans raison officielle Charles Mwanangwa Natalacha, maire de la ville de Likasi au Katanga, a appris mercredi l'AFP auprès de l'intéressé qui dénonce une sanction politique. Il est membre du parti d'opposition Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, dont le chef est actuellement détenu à Kinshasa. Le climat politique est très tendu depuis des mois en RDC. À l'approche d'échéances électorales majeures, l'opposition accusant le président Joseph Kabila de manœuvrer pour se maintenir en poste au-delà du terme de son mandat, quitte à retarder les élections. Enfin, les pourparlers internationaux sur la Syrie en fin de semaine à Vienne représentent la meilleure chance depuis le début de la guerre en 2011 de pouvoir trouver une solution politique, a jugé mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry. Le chef de la diplomatie américaine est l'un des artisans des discussions internationales, incluant notamment l'Iran, qui doivent s'ouvrir jeudi dans la capitale autrichienne par une réunion quadripartite avec ses homologues russes Sergueï Lavrov, saoudien Adel Al-Jubeir et turc Feridun Sinanoglu. Des entretiens identiques à quatre s'étaient déroulés vendredi dernier à Vienne. C'était au micro Idrissa Sedudia, VO Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission, votre antenne libre, émission interactive, et merci à Idrissa Seydoudia pour les brèves de l'actualité. de ce mercredi 28 octobre 2015. Nous parlons de la Côte d'Ivoire encore une fois. Le pays a besoin de réconciliation et de démocratie. C'est le message que Pascal Afinguessan a adressé à son rival Alassane Ouattara pour lui présenter ses félicitations. C'était au cours d'une conférence de presse. Et selon M. Nguessan, la présidentielle de dimanche dernier a révélé que la Côte d'Ivoire est toujours en crise, que la Côte d'Ivoire est toujours divisée. La coalition qui avait appelé au boycott a campé sur ses positions, affirmant aujourd'hui qu'elle ne reconnaît pas les résultats et entend se donner tous les moyens légaux pour contester cette mascarade. Comme ils le disent, M. Ouattara devrait être investi d'ici la mi-novembre. Des élections législatives doivent avoir lieu dans les deux prochains mois. Et pour l'universitaire Christian Bouquet, spécialiste de la Côte d'Ivoire, le taux de participation est bas et il n'a probablement pas satisfait le vainqueur. Nous sommes en direct d'Abidjan avec les parties prenantes dans cette élection. D'abord, la ministre Kandia Camara. Bonsoir, Madame la ministre.
Bonsoir, monsieur.
Et bienvenue encore une fois dans cette émission.
Merci.
Je dis aussi bonsoir à Jean-Gervais Cheidé, qui est le porte-parole de la coalition qui a demandé le boycott de ce scrutin. Bonsoir, monsieur Jean-Gervais.
Bonsoir, monsieur.
Bienvenue encore une fois et merci pour votre disponibilité dans cette émission. Il y aura également monsieur Serge Bagnongué, qui est politologue. Il est basé ici en Amérique du Nord, c'est au Canada. Monsieur Serge, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci, bonsoir. À vous de aussi.
Oui, je signale que à la cabine technique, il y a Georges Léonard Sagno et monsieur Lopez avec nous. Oui, nous aurons également des auditeurs qui vont appeler pour émettre des commentaires ou faire des réactions. Je vais commencer par vous, Madame la ministre. Quel est votre commentaire par rapport au message de monsieur Pascal Afinguessan?
Bon, ce que je retiens de ce que monsieur Afinguessan a dit, c'est qu'il reconnaît la victoire éclatante du président Alassane Ouattara. Et je pense que cela est positif parce que, en général, les perdants ne reconnaissent pas la victoire des vainqueurs. Donc, c'est un acte que nous saluons. Et d'ailleurs, nous saluons aussi les déclarations faites par les autres candidats. Il faut savoir que presque tous les candidats ont fait une déclaration, chacun, pour reconnaître la victoire de M. Ouattara et surtout le féliciter et puis lui souhaiter tous leurs encouragements. Je pense que cela est à saluer. Voilà.
Oui, mais M. Afinguessan, il a dit que le pays reste toujours en crise et qu'il est divisé.
Mais c'est son avis et je pense que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont démontré tout à fait le contraire. Le score obtenu par le président démontre bien qu'il a le soutien des Ivoiriens et cela aussi dénote de l'adhésion des Ivoiriens à ses actions, à sa politique, à sa gestion des affaires de l'État. Et je pense même qu'il y a certaines chaînes
mais
qui ont parlé de plébiscite.
Le taux de, participation, madame.
Depuis 1990, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, on n'avait jamais atteint des scores pareils.
Oui, donc, mais madame, il y a le taux de participation qui était faible. Il y a le taux de participation qui était oui. Moins important que celui de 2010. Ça, il faut le souligner.
Oui. Oui, mais tout à fait. Mais écoutez, en 2010, c'est vrai, en 2010, personne n'a atteint ce score-là. Vraiment, à obtenir près de 84%. Très peu de pays et très peu de candidats en Afrique et dans le monde réussissent à obtenir un tel score. Et c'est pour cette raison que nous félicitons le président Ouattara. Et je pense aussi que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, le soutiennent dans sa politique et ils l'ont exprimé clairement dans l'urne. Et évidemment.
Oui, madame. On va arriver sur le point que vous alliez aborder tout de suite. Nous avons deux autres invités. On va essayer d'être bref dans nos interventions pour pouvoir se passer la parole. Il y a aussi des auditeurs qui vont appeler. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas du tout l'avis de Jean Gervais, n'est-ce pas, monsieur Jean Gervais? Vous n'êtes pas d'accord?
Ben oui, tout à fait, cher monsieur. Je me permets de m'inscrire en faux contre ce que madame le ministre Candia Camara vient de dire. C'est-à-dire que dans une élection comme celle qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'était le taux de participation. C'était vraiment ça l'enjeu, dans la mesure où il était évident que depuis le départ, tout a été mis en œuvre pour que M. Ouattara sorte vainqueur sans coup férir. Alors, le taux de participation qui a connu sous nos yeux des tractations, des tripatouillages incroyables qu'on n'a jamais vus, eh bien, est passé d'abord de 60% selon la CEI à 54%. Mais dans la réalité, toute l'opposition et les observateurs nationaux et internationaux le savent, ce taux de participation ne peut pas et n'a pas pu excéder 20%. Et cela, on le sait, nous sommes aussi informés de toutes les tractations qu'il y a eu au niveau de la CEI même pour pouvoir s'accorder et puis ajuster les chiffres au taux qui avait déjà été annoncé pour ensuite le revoir à la baisse et le ramener à 54%. Mais en la réalité, sur les 6 300 000 Ivoiriens inscrits sur la liste électorale, à peine 1 million ont voté. Et donc,
est-ce que vous en avez les preuves, vous en avez les preuves matérielles à exhiber?
Pardon?
Est-ce que vous avez des preuves matérielles à exhiber pour
Alors, au niveau de la Coalition nationale pour le changement, nous avions, bien que nos candidats se soient retirés, mais nous avions quand même pris des dispositions pour sortir les chiffres. Je vous donne quelques repères, parce que il est difficile de produire des tableaux par téléphone et de les lire. Mais l'un des plus grands centres de vote en Côte d'Ivoire, sinon le plus grand, se trouve à Abidjan, à Yopougon, et au collège qu'on appelle William Ponty. Il y a là-bas 8000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et ce dimanche 25 octobre, aux environs de 16h-17h, il n'y avait que 1000 personnes qui étaient passées voter. Faites-vous vous-même le rapport, vous verrez que c'est à peine 13%. Dans d'autres régions de Côte d'Ivoire, où nous avons pu avoir nos observateurs, on avait pris notre dispositif, on a mis notre dispositif en place, nous avons pu, et nos tableaux peuvent l'attester. Ce sont des éléments que nous pouvons prouver. Le taux moyen à 14 heures se situait autour de 9%. Et à 17 heures, l'heure de fermeture des bureaux de vote, on était à peine à 15%. Voilà la réalité. Nous avons ces éléments-là. Et personne ne peut,
comment,
évidemment, on peut les contester.
Comment comptez-vous les contester dans quelle voie?
Pardon?
Et comment comptez-vous les contester, dans quelle voie?
Ben, évidemment, il s'agit pour nous, en tant qu'opposition républicaine, de dire que le vote qui a eu lieu, d'abord, nous avions dénoncé les conditions d'élection et avant qu'on y arrive, et maintenant, le vote qui a eu lieu, le scrutin qui a eu dimanche, est un scrutin qui ne reflète pas le souhait des Ivoiriens. La très grande abstention qui va au-delà de 80% est le signe que le peuple de Côte d'Ivoire a désavoué l'organisation et le candidat Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Et donc, nous nous entendons répéter et dire à M. Ouattara que vous avez été mal élu et que c'est une minorité d'une minorité qui vous a porté au pouvoir, même si vous avez un score soviétique. Évidemment, quand on se fait élire à 83% par moins d'un million de personnes, dans une Côte d'Ivoire qui en compte près de 26 millions, il n'y a pas de quoi pavoiser. C'est ce que nous voulons dire et nous entendons le dire dans toutes les tribunes qui nous seront offertes.
Mmh. Oui, Madame la ministre, votre réaction.
Le monde entier nous écoute Et je voudrais demander à celui qui vient d'intervenir d'être un peu plus sérieux. Voilà. Et puis, vraiment, d'avoir un esprit, l'esprit de démocrate. Cette élection a été suivie par plus de 3000, je dis bien 3000 observateurs nationaux et étrangers. Et cette élection, tout le monde l'a dit, cette élection ne souffre d'aucune irrégularité, d'aucun tripatouillage. Je pense que c'est l'une des élections les mieux organisées en Afrique, les plus transparentes, crédibles, sérieuses et équitables. Et vraiment, tout le monde l'a reconnu. Alors, celui qui vient d'intervenir, je ne sais pas de quoi il parle. Je me dis que son candidat, s'il avait l'assurance de gagner ces élections-là, s'il était aussi populaire que ça, s'il avait l'adhésion des Ivoiriens, mais il serait allé jusqu'au bout. Ceux qui sont allés jusqu'au bout, tous les candidats reconnaissent la régularité de cette élection-là. Cette élection ne souffre d'aucune irrégularité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le candidat Ouattara qui le dit. Non seulement la CEI l'a dit, mais ce qui est plus important, ce sont toutes ces personnalités, des anciens chefs d'État, chefs de gouvernement, etc., etc., des gens crédibles, mondialement reconnus comme observateurs crédibles, sont venus et ont donné leur avis. Alors ce qu'il dit n'engage que lui. Et donc, je crois que vraiment, moi, nous sommes à une émission qui peut intervenir.
Il a dit qu'ils vont prouver ça par... matérialiser...
Regardez, par exemple,
attendons.
Il parle d'un bureau de vote, s'il vous plaît. Il parle d'un bureau de vote, alors qu'il y a plus de 19 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Et d'abord, ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Bon, comme je n'étais pas là-bas, donc, et avec ce qu'il dit, le commentaire qu'il fait, je doute même de la crédibilité de ce qu'il est en train de dire concernant ce bureau de vote. Mais je voudrais dire qu'il y a 19 000 bureaux de vote et le vote a eu lieu.
Madame,
ce que je ne comprends pas,
madame,
c'est qu'il n'avait pas de candidat, son candidat n'était pas présenté.
Madame,
et il prétend avoir envoyé des observateurs dans le bureau de vote.
Attendons les preuves qu'ils vont exhiber pour les examiner et juger. Je voudrais passer la parole à M. Serge. Monsieur Serge, vous êtes politologue. Votre lecture de la situation actuelle. Allô? Monsieur Serge, allô?
Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien.
Ah, ok, je ne vous entendais pas tout à l'heure. Maintenant, je vous reçois. Oui, votre lecture de la situation actuelle, il y a un contentieux qui est là.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut d'abord situer l'enjeu majeur de qui est l'enjeu post-électoral. C'est un enjeu qui concerne la légitimité du pouvoir qui vient d'être élu, plus ou moins mal élu ou bien élu, selon qu'on est son partisan d'un camp ou de l'autre. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que celui qui est votre invité, qui s'est exprimé par rapport à la participation, avait tout à fait raison, parce qu'un des principaux enjeux ici, dans un de ces points, pas dans tout, là, je ne sais pas tous les données, l'un des principaux enjeux de cette élection, c'était la participation. Et je pense que le principal adversaire du président sortant et qui vient d'être réélu était justement le taux de participation. Ce taux-là, qui est aussi le reflet de l'appel de ses principaux opposants, ou bien d'un groupe de ses principaux opposants à participer ou non à l'élection, devait déterminer la qualité de cette élection-là. Et c'est vrai que ce taux, y compris par les chiffres de la CEI que nous avons reçus, et même par les chiffres qui sont clamés par le gouvernement lui-même, est assez bas. Maintenant, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays qui sort d'une période assez pour les tensions. On peut le voir au débat que nous avons en ce moment, ne sont pas résorbés et c'est difficile de tenir les élections dans ce cas-là. Donc, à mon humble avis, le plus important maintenant, puisqu'on est devant une sorte de fait accompli, Le plus important au-delà des débats entre les différents partisans, c'est qu'est-ce que l'avenir annonce et comment est-ce qu'on peut partir là pour voir ce qui en vient. Je pense que le moment est vraiment venu pour le pouvoir qui a été désigné de prendre sur lui la responsabilité de marcher réellement vers la réconciliation. C'est-à-dire que la capacité aussi maintenant qu'ils ont, ils ont à nouveau le pouvoir d'imposer aussi un certain nombre de contraintes à ses propres partisans. Parce que ici, on a eu l'impression, pendant le premier mandat du président Ouattara, que c'était la porte ouverte à ses partisans. C'est l'occasion aujourd'hui pour une véritable conciliation de marcher vraiment vers un mécanisme de condition des comptes, y compris pour ses partisans.
Oui. Monsieur Serge, une présidentielle apaisée et crédible dans ce pays était jugée fondamentale pour tourner définitivement la page des violences meurtrières qui avaient suivi le deuxième tour des élections de 2010. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le pays est à l'abri des violences post-électorales?
Il y a deux choses qu'il faut comprendre.
Et comment les éviter?
Oui, il y a deux choses qu'il faut comprendre, qu'il faut bien cerner ici, entre la volonté de commettre la violence et la capacité de le faire. Je pense que, tout à l'heure, je parlais de la réconciliation. Cette présidentielle, d'abord, l'avant-présidentielle a démontré tout à fait que la réconciliation n'avait pas été atteinte parce que les frustrations qui ont été de la crise post-électorale de 2011 ont refait surface, ont pris une forme encore beaucoup plus violente dans le discours. Maintenant, il est heureux que cela demeure uniquement dans le discours, qu'il n'y ait pas deux camps fortement armés comme c'était le cas en 2011. Alors, c'est pour ça que je parlais d'une marche réelle vers une véritable réconciliation, c'est-à-dire une réconciliation qui ne soit pas une justice des vainqueurs, mais qui soit aussi une réconciliation où on soit prêt à concéder un certain nombre de choses. Je pense que il serait très important que le candidat Ouattara redevienne vite le président Ouattara pour qu'il se mette au-dessus
de la mêlée
de la mêlée et sur la partisanerie, les cellules partisanes pour justement marcher vers une véritable conciliation. Je pense, et pour ceux qui l'observent, on a vu ce que l'économiste qu'il était a pu faire en termes de retour économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on attend un peu ce leg qui va être l'élément de son second mandat, un legs de réconciliation, un legs de reconnaissance. Alors, quand on parle de présidentielle, justement, comme élément, la présidentielle, comme en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, est un moment de crispation. Ça cristallise les tensions. Parce que là, et surtout qu'on a un système chez nous qui est, comme on dit en sens politique, le winner takes all. C'est-à-dire que le vainqueur emporte la mêlée, la mise. Alors, c'est vraiment un moment de tension, c'est un moment de défi où les candidats, les partisans s'observent et puis sont prêts à de manière symbolique, à se sauter à la gorge parce que l'enjeu est lourd. Maintenant que l'enjeu est dépassé, il faut revenir au jeu, c'est-à-dire au jeu politique apaisé, au jeu politique de réconciliation, d'ouverture et de reconnaissance de l'autre dans sa différence et sa particularité.
Oui, mais vous avez entendu que la coalition nationale pour le changement entend se donner tous les moyens légaux pour contester cette élection.
Mais absolument. Mais écoutez, il faut bien rappeler ce que c'est qu'une élection. Une élection est d'abord, avant tout, une contestation. C'est un concours où on conteste, où on se met en place. Et la contestation, ça vient un peu de l'anglais de contest. C'est vraiment dans une logique de concours. Et c'est justement tout à l'égard de cette coalition-là de tout faire pour contester. Maintenant, on estime qu'il faudrait que la justice soit libre, indépendante, pour écouter les contestations et aller au bout du contentieux électoral. Si contentieux, il y a. Est-ce qu'il y a matière à ouvrir contentieux électoral? Si oui, il faudrait aller jusqu'au bout pour justement renforcer le caractère légitime du pouvoir qui vient d'être échu au président. Je veux seulement rappeler que il y a deux types de contestations. Il y a des contestations qui sont de nature à faire annuler le scrutin, ou du moins il y a certaines contestations qui peuvent entacher le scrutin en termes d'équité. D'ailleurs, une des contestations, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas la bonne contestation qu'ils font. Vous savez, une des choses qui est la plus délicate durant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, malheureusement, c'est l'encadrement de la dépense électorale. Quand vous avez un candidat comme le président Ouattara qui a dépensé 100 000 fois voir que son premier suivant, le jeu est faussé d'avance, on le sait partout. Mais ça, c'est un problème qui pourrait vous voir plus tard pour les prochaines élections. Il faut absolument, dans les élections en Afrique, encadrer la gestion de la dépense électorale. Et ce n'est pas, on ne peut pas seulement dépenser tout ce qu'on a. Parce que généralement, s'il y a des façons de dépenser, comme on l'a vu par rapport en Côte d'Ivoire, fausse vraiment le jeu électoral. Ça, c'est les éléments qu'on pourrait... on ne peut pas malheureusement les contester parce que ce n'est pas prévu dans la loi. Mais je pense que dans le futur, il est impératif qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, la dépense post et pendant l'élection soit pré et pendant l'élection soit vraiment encadrée. Et ça, c'est vraiment important.
Merci. Gardez l'écoute. On va prendre nos auditeurs qui nous appellent. Il y a Abdoulaye Panora Camara qui nous appelle de la Guinée. Abdoulaye, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, très rapidement, votre commentaire. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que la question qui était posée à nos auditeurs sur notre page Facebook, quelle devrait être la priorité du président élu pendant les 5 prochaines années. Voilà. Votre commentaire.
La priorité du président élu en durant les 5 dernières années.
Et surtout pour préserver la paix et la stabilité du pays.
Voilà, moi j'aurais souhaité qu'il continue sur ce qu'il avait commencé, la réconciliation nationale. Avant tout d'abord, c'est la priorité. Il n'a qu'à d'abord chercher à réconcilier les Ivoiriens qui étaient divisés suite au poste électoral de 2010. Donc, toutes les victimes de ces crimes, il n'a qu'à faire la réconciliation entre eux, de demander le pardon. À ce qui concerne aussi la justice, de faire la justice équitablement. Déjà, il y a beaucoup de gens qui... Par exemple, moi, j'apprécie beaucoup l'acte qu'il a fait de demander le jugement de Mme Simone Bagot en Côte d'Ivoire et non à La Haye. Et c'est différent de ce qui se passe chez nous ici. Tous ceux qui sont inscrits à La Haye sont toujours là-bas, sans aucun jugement. Donc, dans un pays où il n'y a pas la réconciliation nationale, ce n'est pas facile que ce pays avance. Donc, il faut que le tissu social, d'abord, soit entièrement coupé et non déchiré pour que ce pays avance. Mais tant que le tissu social n'est pas très bien reformulé, donc, ce n'est pas facile que ce pays n'a évolué. Donc, c'est ce qui se passe chez nous en Guinée. Ce sont des règlements de comptes qui se passent. Celui qui vient au pouvoir n'est pas là pour réconcilier la population, ni rien. Mais l'intérêt, c'est juste là. Pour faire des bandes, pour faire une division ethnique. Donc aujourd'hui, je vois que la Guinée est divisée, c'est par manque de bilan. Et le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, lui, il a commencé d'abord par la réconciliation nationale des Ivoiriens. Donc c'est ça la priorité des choses.
Merci pour votre commentaire. On va prendre Mori Fatoyaka Kondé, qui est à Conakry. Mori, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, très rapidement, votre commentaire.
Bon, moi, je voulais commenter, c'est ce que je voulais dire, mon confrère a tout dit. Donc, moi, je ne peux ajouter que de demander toujours à Ado de renforcer la tissu sociale et demander pardon à tous les Ivoiriens et former un gouvernement d'union nationale pour pouvoir préserver la paix et la quiétude sociale. Donc, je ne peux ajouter que de vous remercier d'avoir m'appelé, parce que mon confrère a tout dit.
Oui. Et puis, comment, par exemple, Ouattara devrait rassurer ses opposants et surtout la coalition nationale pour le changement? Après cette petite pause, nous revenons vers vous, Maury, et à tous nos invités à Abidjan et au Canada.
La Côte d'Ivoire dans Antenne Libre sur VOA Afrique.